Journal d'information et de débat du plateau de Mille Vaches sur Radio Vassivière. Mais bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans IPNS l'émission, l'émission qui sort en même temps que chaque numéro d'IPNS. Et on est là pour parler du numéro 94, sorti en mars 2026. C'est autour de la table donc Michel, Yann, Pavel et encore voilà, des invités surprises. On ne sait pas encore trop qui va parler dans cette émission, c'est toujours un peu ça l'émission d'IPNS. Et on va donc dérouler un peu ce numéro en se focalisant. Bah déjà, on va commencer sur deux articles qui sont voilà, qu'on va mettre un petit peu en parallèle. On va voir si c'est un parallèle qui est valable ou pas. On va en discuter. Bah déjà, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer par un article qui s'appelle HSU, intelligence artificielle et subventions réelles. Et c'est donc toi, Yann, qui a écrit l'article et qui va nous en parler un peu.
Oui, alors tout commence à IPNS par un message d'une lectrice qui nous dit qu'elle apprend qu'il y a ce projet, elle n'a pas trop compris ce que c'était, et puis qu'en tout cas elle a compris qu'il y avait beaucoup d'argent public, que ça s'appelait Monde Nouveau. Alors du coup, à partir de là, on a échangé à quelques personnes déjà sur la liste d'IPNS, voir si on connaissait ces... Jean, c'est pas très loin chez Sou quand même, le plateau de Mille Vaches. Et puis, c'est trouvé que non, pas tellement. Mais.
Pour préciser, on dit un projet peut-être, un projet d'art contemporain. Pour
dire. Oui, un projet d'art contemporain qui s'appelle The Feral maintenant. Je dis maintenant parce qu'au tout début, c'était peut-être pas le nom. En tout cas. J'ai fini par passer beaucoup de temps sur internet, tout simplement, à chercher des infos sur les subventions qu'avait eu ce projet, qui sont nombreuses, parce que sur leur site, les porteurs de projets, sur theferal.org, présentent ce projet d'art contemporain, et puis mettre, comme c'est obligatoire, hein, les logos des subventions qu'ils ont reçues, les logos des administrations qui les ont subventionnées, puis aussi les logos des fondations privées qui les subventionnent. C'est un film de 1000 ans produit par une intelligence artificielle. C'est voilà le petit alors, résumé qui est qui
un film
donne...
de 1000 ans, c'est-à-dire 10 fois 100 ans. Voilà. C'est un film qui va durer 1000 ans.
Bah après, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à pas forcément. Enfin moi, ça m'a pas beaucoup intéressé, j'avoue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu sidérant, évidemment. Donc, comment on peut imaginer faire quelque chose d'aussi long, voilà. Et sans doute que ça fait partie un peu du projet, je pense, de sidérer, questionner, être intriguant, etc. Et personnellement, je pense que ça me paraît un peu un piège. Et donc, je ne dis pas que ça ne peut pas avoir son intérêt, mais je ne suis pas trop rentré dans la critique artistique du truc, j'avoue.
Alors moi, j'avoue que j'ai essayé de comprendre quand même le projet, parce que voilà, c'est quand même le premier réflexe quand on me parle de quelque chose comme ça. Puis moi, je viens du cinéma en plus, donc un tournage qui dure 1000 ans, ça m'intrigue quand même. J'avoue que je n'ai pas trop compris, mais j'ai cherché, j'ai lu leur site pourtant, j'ai lu un peu les articles, voilà, mais je ne dois pas être le bon, public, mais...
Bah après, on comprend en tout cas qu'ils sont très ambitieux. Ils parlent de 32, alors le chiffre est peut-être pas exact, générations d'humains. J'ai fait la division, ça correspond à peu près. Et donc, voilà, beaucoup de disques durs pour stocker tout ça. Et c'est toujours que ça frappe un peu par sa démesure, quoi. Et donc moi ça a été beaucoup un... donc j'ai rencontré une des porteuses du projet qui est, c'était une rencontre pas facile parce que moi je rencontre pas si souvent que ça des gens en sachant voilà, que c'est dans un rapport quand même un peu inquisitorial, enfin désagréable en tout cas. J'arrivais en lui demandant comment ça se fait que vous avez eu autant d'argent public, est-ce que vous pouvez me donner la liste, et c'est pas forcément oui, je pense que c'est plus des gens qui sont habitués à avoir une double page dans Libération qui dit à quel point c'est incroyable comme projet, dans des magazines un peu plus de niche aussi d'art contemporain, et du coup le rapport comme ça d'enquête c'est pas du tout habituel finalement. Et d'ailleurs même pour moi, aller voir des artistes sur ce mode un peu désagréable, inquisiteur, acteur, c'est pas non plus un truc que je fais très souvent. Mais ce que j'ai fait beaucoup avant, donc là voilà, elle m'a raconté, elle a défendu le truc, et c'est quelqu'un qui parle très très bien, hein, qui a fait Normale Sup, non, l'école normale, je sais plus qui a l'école normale, et donc qui est habitué à dérouler des concepts, et je pense que pour voilà, remplir des dossiers de subvention et expliquer à quel point ça va être formidable comme projet, elle est très forte. Elle est prof dans une école d'art, et puis son compagnon est artiste, et il avait déjà été invité au Centre d'art de Vassivière. Donc je suis aussi joint Marianne Lanavert, qui était directrice du Centre d'art à l'époque, et elle m'a parlé de ce que ça lui faisait, ce genre de projet. Donc elle, bah, elle a quitté les institutions de l'art contemporain, elle a quitté le Centre d'art, et elle a un peu changé de vie. Elle a un regard différent maintenant sur ce qui se fait dans le milieu de l'art contemporain et sur ce genre de projet qui parle un peu d'écologie, qui parle un peu de forêt, tout en étant très technophile. Voilà, elle est très critique. Et elle m'en a un peu parlé. Et j'ai aussi cité dans l'article un article qu'elle avait de toute façon écrit déjà sur justement écologie et art contemporain. Voilà. Et donc, j'ai passé surtout du temps à appeler des administrations pour leur demander combien d'argent ils avaient donné. Parce que voilà, le site du projet, il est obligé de faire figurer le logo. Comme Radio Vassivière, ici présent, est obligé de faire figurer les logos du ministère de la Culture, etc. Et le fait. Par contre, il est obligé de donner le montant, forcément. En tout cas, les obligations comme ça de transparence sur l'argent public, elles ne sont pas très précises, en fait. Et donc, par exemple, eux, ils ont commencé ce projet au moment du Covid, à un moment où Macron a lancé Monde Nouveau, qui donnait 30 millions d'euros pour 240 projets. Et c'est-à-dire beaucoup, en fait, par projet. Ça fait 125 000 par projet, et c'est exactement ce qu'ils ont eu. Et rien que ce chiffre-là, alors 30 millions d'euros pour la culture, ça, c'est un effet d'annonce qui est transparent, c'est-à-dire qu'ils le disent, les gouvernants de nos jours. Par contre, ensuite, à qui, comment, ça devient beaucoup plus, beaucoup moins affiché, en fait. C'est pas, donc là, j'ai fini par l'avoir, j'ai appelé le ministère, qui me dit « oui, bah, bien sûr que ça doit être public », et du coup, je dis « bah oui, mais c'est où, du coup, que c'est public ?» Bah, alors, attendez, et donc, en fait, elle me renvoie sur un tableau Excel très, très gros, introuvable sur data.gouv.fr, donc finalement c'est public, mais en gros si t'es pas journaliste et que t'as pas 3 heures pour chercher le tableau, tu le trouves pas, donc c'est semi-public, quoi. Et ensuite pour ce qui est de il faut m'interrompre si je rentre trop dans les détails, non, pour ce qui est d'une autre subvention impressionnante, quand on sait que ici on est dans un journal IPNS qui se voit refuser 3000 euros par exemple de subvention parce qu'on n'est pas assez ceci cela, on a quand même un fonctionnaire qui nous envoie des mails et des mails pour dire que non, ça va pas être possible parce que vraiment on rentre pas du tout et tout. Bon, là on a 160 000 euros de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc pour ce film, ce projet culturel à chez Sous, sur 4 ans. Alors Ida Soulard, quand j'ai rencontré, m'a dit que c'était pas une somme versée sur leur compte de façon aveugle, hein, c'est 40 000 euros par an pendant 4 ans, et qu'en fait ils doivent avancer et tout, mais bon, quand même, ils vont se débrouiller, et ça fait quand même beaucoup d'argent public. Alors là, impossible de... Enfin, elle a fini par me donner le chiffre, elle, mais l'administration, non. Là, ça, donc, c'est la préfecture de Massif, comment il appelle ça, hein, préfecture coordinatrice des actions pour le Massif Central. C'est des gens à Clermont-Ferrand, en fait, qui gèrent ça. Puis au début, je l'appelle, le gars, il me dit « Ah oui, je vois très bien les trucs à chez Sous. Mais là, je suis en vacances, là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais oui. » Et puis la semaine suivante, je le rappelle quand il est plus en vacances, et puis il me dit « Ah non, mais en fait, mais pourquoi vous voulez savoir ça ?» Et donc, voilà, c'est l'administration aujourd'hui, c'est quand même, je trouve que je le souligne parce que c'était frappant dans cette petite enquête-là, qu'ils ne veulent pas donner les chiffres pour... Enfin voilà, on a ceux qui disent oui, c'est public bien sûr, alors qu'en fait c'est quasiment impossible à trouver, ceux qui ne veulent carrément pas donner les chiffres du tout. Et sinon, on a aussi des trucs plus locaux, plus petits, qui sont les Comcom les pays qui ont affecté de l'argent de l'Union européenne, donc 13 000 euros pour un séminaire, toujours dans le cadre de ce projet. Là, ça a été moins compliqué d'avoir le chiffre, parce que c'est de l'argent européen. Et la Commission européenne, en fait, a harmonisé le tout sur toute l'Union européenne. Alors, pour qui a déjà fait une demande de subvention à l'Union européenne, on sait que c'est quand même pénible, parce qu'effectivement, ils demandent beaucoup de pièces. Mais à la fois, côté transparence citoyenne, c'est pas mal fait parce que là, on a des tableaux plus facilement accessibles. Alors, je dis pas que c'est le premier résultat dans Google quand vous cherchez, mais bon, c'est quand même trouvable. On a des sites, en fait, dans chaque région qui s'appellent l'Europe en Occitanie, l'Europe en Nouvelle-Aquitaine, l'Europe en machin. Et là, on a en bas un lien avec le tableau Excel et toutes les subventions. A priori, c'est un peu plus transparent, comme on dit. Donc voilà, j'ai beaucoup fait de recherche sur ces financements publics.
Et moi, j'avais une question, parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Du coup, où est l'artiste ?
Mais voilà, c'est, j'ai dit au début, moi, c'est le genre de question que je ne me suis pas vraiment posé, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut, c'est des gens qui peuvent faire des heures, justement, de réflexion là-dessus. Mais je pense que ça fait partie du projet. Je ne sais pas, et je pense que c'est surtout des gens en 2020 qui ont été peut-être parmi les premiers à mettre « Allez, on va mélanger art contemporain et intelligence artificielle. » Voilà. Et donc, on devrait être les premiers à taper dans ce, je sais pas, cette petite niche, quoi, de l'art contemporain. Et donc, on va être subventionné. Après, comment ça se met en place pratiquement ? Je suis pas là, je n'ai pas regardé. Parce que je suis très, très opposé à toutes les intelligences artificielles génératives. Je pense que c'est une catastrophe écologique et aussi mentale, enfin, conceptuelle, je sais pas comment dire. Social qui nous dépossède, et ça ne m'intéresse vraiment pas du tout, et je trouve ça vraiment nocif, donc je n'ai même pas envie de regarder.
En tout cas, c'est quand même ça qui t'a interpellé. Enfin, une partie des, dans les deux choses qui t'ont fait, parce que tu as fait une enquête sur un projet, il y a des projets, il y en a d'autres qui reçoivent de l'argent aussi. Celui-là, il t'a plus marqué, interpellé que d'autres, d'une part pour les montants financiers et le côté un peu hors sol de la chose, et pour son traitement de l'intelligence artificielle, voilà, avec une tentative un peu de positiver la technologie. Il y a quelque chose de cet ordre-là ?
Ouais, après, c'est des concours de circonstances aussi qui font que... Là, je te dis, c'était aussi tout simplement le message de cette lectrice au départ qui nous fait creuser, voilà, et on découvre que ouais, ça réunit pas mal de choses assez étonnantes, ce type de projet. Voilà. Après, je sais que c'est des artistes qui sont installés ici depuis peu, en fait. Ils étaient originaires pour lui de la région, mais pas elle, et puis ils étaient à Paris. Bon, après, ils font des partenariats avec des musées à Sydney, à Lisbonne. C'est des gens qui voyagent beaucoup. Mais bon, en tout cas, ils sont quand même installés du côté de chez Sous depuis la rentrée. Leurs enfants vont à l'école dans le coin. Et probablement qu'ils font des choses intéressantes en partie. Hein. Tous les étés, il y a donc des séminaires. Il y en aura sans doute l'été prochain aussi sur... dans le processus de fabrication de ce soi-disant film de Milan. Bon.
Tu as été sur place ? T'as pu,
Non, donc pour quand même un projet qui a reçu beaucoup d'argent public, il y a déjà 5 ans, avec un grand truc, 5 ans plus tard, elle m'a dit qu'il n'y a pas grand-chose à voir sur place. Voilà. Et pourtant, c'est la cohésion des territoires et tout, donc bon, je ne sais pas. Sur place, non, on ne m'a rien proposé de visiter.
Et donc les photos qu'on voit, d'ailleurs c'est souvent précisé, c'est des photos réalisées en 3D, sûrement à l'aide d'intelligence artificielle, donc quelque chose qui n'existe pas encore, quoi, c'est ça. Il y a beaucoup de visuels quand même sur ce lieu, mais on sent que c'est un visuel un peu abstrait, quoi. Voilà, merci d'acquiescer silencieusement.
Ouais, mais je peux pas dire grand chose du projet en lui-même, j'avoue. C'est plus moi le financement et la logique sur lesquelles j'ai travaillé.
Merci Yann. Donc,
avec plaisir.
Encore, quoi, 1000 ans pour suivre le projet, donc voilà. Tu auras le temps de revenir dans quelques émissions. On va peut-être suivre ça tous les 50 ans, peut-être que ça va suffire comme fréquence. Alors, j'avais pensé une sorte de transition, là, je ne sais pas, c'est peut-être un peu piégeux, peut-être complètement à côté de la plaque, mais je m'étais dit en préparant l'émission qu'il y avait voilà, ces deux articles, donc cet article sur ce qui se passe à chez Sous autour de l'art contemporain et de l'intelligence artificielle, mais c'est quand même je suis rentré un petit peu dans le projet, il y a quand même un discours sur le territoire, sur les forêts, sur l'avenir du plateau de Millevaches, entre autres. Voilà. Et dans le même numéro, il se trouve qu'on a un artiste qui aussi, à sa manière, explorer la représentation de la nature, du plateau de Millevaches, des gens, de ce qui se passe ici, mais avec un regard vraiment beaucoup très différent, des techniques qui n'ont rien à voir. Et voilà, j'avais envie de faire un petit... c'est plus pour l'anecdote, de faire un petit parallèle sur ces choses-là. Et je trouve que c'était intéressant de confronter deux manières de faire de l'art qui sont quand même vraiment différentes. Et on va peut-être pas rentrer dans les histoires dessous avec Pavel, mais je pense qu'il y aurait sans doute moins à dire en termes de grosses subventions de l'Europe et de fondations à Tokyo. Bonjour Pavel.
Bonjour. Non, mais je dois quand même dire que comme j'habite à Prague, j'ai quand même de l'argent pour l'essence de la municipalité de Guéret. Voilà. Donc j'expose maintenant à Guéret des gravures qui illustrent le texte de Marcel Delpastre. Peut-être dans 1000 ans, on va encore parler de Marcel Delpastre, j'espère. En tout cas, c'est des textes magnifiques. Et comme j'habite à Prague, mais j'habitais auparavant pendant presque 40 ans à Limousin, à Limoges, je n'ai pas connu Marcel Delpastre, mais j'ai connu ces textes par Jean Doméo, qui m'ont inspiré à donc, faire cette série de gravures. C'est des gravures sur lino, mais en général, je travaille sur bois. Mais... ces textes sont maintenant réunis dans une publication qui s'appelle Terre-Mer. C'est des textes que j'ai choisis. Jean Doméo m'a donné ma liberté de choisir des textes que je voulais. Donc les textes que j'ai choisis sont des textes sur la vie, sur la mort, sur la vieillesse, sur la nature, sur l'écologie. Je les ai réunis donc dans ce livre qui est exposé à Guéret maintenant.
Voilà, et donc Guéret, comme vous le disiez, vous avez payé votre essence pour venir de Prague, mais vous avez commencé à en parler un petit peu, la région, vous n'êtes pas du tout étrangère, parce qu'on va peut-être revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes tchèque ?
Non, oui, je suis tchèque. Mon épouse est française, on a déménagé en Limousin en 1978. Et depuis, on habite en Limoges jusqu'en 2017, je crois. Au début, je faisais partie de la CEPOL, donc la Société d'études et de protection des oiseaux. Donc je fais beaucoup de sorties avec... cette association, j'ai découvert le plateau des Millevaches, où je me sens chez moi maintenant, même si je suis pragois d'origine, où je me sens très bien dans le Limousin. Je le dis pas, je parle pas beaucoup de Limousin à Prague, parce que je veux pas que ça devienne un lieu très touristique, comme que ça reste comme je l'aime. Mais ceci dit, je fais déjà peut-être une 70, 80 gravures sur le paysage du Limousin. Chaque année, il y en a des nouvelles. Je suis donc graveur sur bois, mais c'est pas mon métier. Je suis autodidacte. Et je suis d'origine ébéniste, donc j'aime bien travailler le bois. Et cette technique, la technique que j'utilise, je l'ai plus ou moins inventée. Plus tard, j'ai appris que ça s'appelle technique à bois perdu, mais je l'ai redécouvert moi-même parce que je voulais travailler avec les couleurs. J'utilise donc la même matrice pour toutes les couleurs, et entre chaque couleur, je modifie la matrice, j'ajoute d'autres détails, et j'imprime donc sur le feuille qui était déjà imprimé avec des couleurs précédentes.
Oui, ce qui veut dire que, pour bien qu'on comprenne, ce que vous appelez la matrice, c'est donc la planche de bois que vous gravez donc pour sortir les formes, et qu'à la fin de votre travail, on ne peut pas refaire les gravures, puisqu'on a perdu les premières formes, oui, elles ont été recreusées derrière pour appliquer d'autres couleurs. Et donc,
les tirages sont limités, mais je peux faire... en général, je fais une dizaine de tirages, mais on peut en faire 20 ou 30 si on veut, mais... je commence en général avec 10 feuilles, ça me permet de ne pas passer autant de temps à imprimer, parce qu'il y a quand même entre 5 et 8 couleurs par gravure, donc déjà comme ça, ça prend beaucoup de temps. Je préfère de... C'est-à-dire, pour moi, une seule preuve suffirait, mais je ne sais jamais si je vais le réussir, donc je fais plusieurs épreuves. Parce que des fois, il arrive que sur 10 feuilles, il n'y en a que 3 qui sortent. Voilà, je ne vais pas passer beaucoup de temps à imprimer. Je préfère de me balader et trouver d'autres sujets pour d'autres gravures. Voilà.
Alors là, on est déjà dans la technique de gravure, donc de production de l'image, mais peut-être qu'on peut parler du travail qui se fait avant. Comment est-ce que vous travaillez sur nature, sur photo? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à une image?
Il m'arrive de faire des croquis, mais la plupart des temps, je dois dire que je fais une photo. Parce que de toute façon, le croquis, je peux le faire sur place, mais tout le travail se fait dans chez moi, dans mon atelier. Parce qu'il faut une table, des gouges, la presse, etc., les couleurs, on peut pas faire ça comme la peinture dehors. Il faut un atelier avec la presse. Voilà.
Alors donc vous avez votre croquis, une fois votre croquis réalisé, j'imagine, sur papier, après vous le reportez sur la matrice, sur la planche de bois.
Oui, c'est-à-dire je fais jamais exactement, je prends la liberté de faire ce que je veux avec le croquis. Donc, mais comme j'ai dit, il y a des fois des croquis, mais beaucoup, plus souvent, c'est une photo sur laquelle je travaille, mais uniquement des photos que je fais. Je n'ai jamais fait une gravure d'après une photo que j'ai trouvée quelque part. Non.
Et puis, je dirais, pour avoir regardé un peu plusieurs gravures, il ne s'agit pas du tout d'une reproduction fidèle, exacte d'une photo, ça n'a rien à voir. Par exemple, là, sur une des vues qu'on a vues juste avant, c'est un village, une église, et on voit bien que cette église, elle est déformée, elle n'est pas exactement comme elle est dans la réalité. De la même manière que dans certaines de vos gravures, on voit des vaches qui marchent au plafond, en haut de la gravure, la tête en bas. Donc il y a un petit côté... onirique finalement dans un certain nombre de vos gravures.
Oui, c'est sûr que je ne vais pas faire une photo. Je prends la liberté d'interpréter le paysage comme je le sens, comme je voudrais. Les gens doivent après retrouver dans la gravure ou dans cette représentation ce qu'ils veulent. Mais je fais pas une photo. Dans ce cas-là, je pourrais carrément faire que des photographies.
Mais là, par exemple, on a une gravure qu'on est en train de regarder et que les auditeurs ne peuvent pas voir. Mais
tu vas la décrire, Michel.
Mais je vais la décrire. C'est un paysage, effectivement, limousin, avec une prairie, des arbres. Il y a une belle croix en granit, une vieille croix. Je ne sais pas si elle existe vraiment.
Elle existe. Avant de partir pour Prague, je fais la dernière exposition. C'était justement des croix, des granites. J'ai parcouru notamment le plateau de Mille Vaches avec mon épouse. J'ai répertorié toutes les croix que j'ai trouvées sur une carte. Je pense que ça c'est chez Sou ou quelque chose comme ça. Ça fait 10 ans que je suis parti, donc je ne me souviens plus.
Ah ben chez Sou, voilà. On a notre lien avec chez Sou. Merci.
Oui, c'est peut-être le lien. En tout cas, j'ai trouvé des gravures sculptées, des croix sculptées magnifiques. J'ai fait donc une vingtaine de gravures avec les croix du Limousin. Ouais.
Et alors, si je reviens sur cette gravure, donc il y a ce paysage, il y a cette croix, et puis il y a des musiciens. Et le ciel est parsemé, alors on pourrait dire de profils qui pourraient être des nuages, mais qui sont en fait des danseurs. Voilà, c'est pour dire qu'on est bien dans quelque chose qui est complètement réinventé, complètement inspiré par ce qui se passe dans votre tête plutôt qu'à copier la réalité.
Oui, je vois qu'il y a, peut-être un couple de mariés aussi en bas, donc derrière il y a les danseurs, oui, c'est la fête. Ouais.
Alors on peut parler aussi de, l'aspect plastique, donc on a dit que c'était de la gravure, mais gravure ça peut prendre plein de formes. Là c'est de la gravure sur bois, vous parliez de gouge, vous parliez de, d'outils, vraiment de, d'outils presque d'ébéniste. Ça, ça se retrouve vraiment dans la, la qualité de votre dessin, il y a, on voit... Vous assumez vraiment le trait, disons, de la gouge, un peu comme certaines peintures, on voit les coups de pinceau, là on voit vraiment les coups de, d'outils très fortement, quoi. C'est un élément pictural qui est vraiment présent, quoi.
Oui, je pense que le fait que j'utilise plusieurs couleurs me permet de faire beaucoup de détails. Si c'était comme les gravures anciennes qui illustraient des livres, souvent c'était juste une seule, un seul passage, couleur noire. Or, j'ai inventé cette technique, c'est-à-dire je ne connais personne d'autre qui fait autant de couleurs. Ça doit exister, mais ici dans le Limousin, je pense qu'il n'y a personne qui utilise cette technique. Et comme il y a donc, ici, je dirais, regardant la gravure, qu'il y a une dizaine de passages, donc il y a, je peux y ajouter beaucoup, beaucoup de détails, ouais, avec, avec la gouge.
Ouais. Alors on parlait du côté... pas forcément réaliste, même s'il y a quand même quelque chose d'assez naturaliste, parce qu'on sent que c'est vraiment des paysages auxquels on croit, enfin, on sent que ça a été vu et que c'est reproduit. Et après, vous vous amusez un petit peu avec, sur, notamment sur un bon nombre de gravures, alors pas celles qui sont dans le magazine, mais celles qu'on, qu'on peut trouver par ailleurs. Il y a souvent des personnages, et y compris des bâtiments, qui sont dans des perspectives complètement irréelles. Donc là, par exemple, on a encore une, de nouveau une croix, voilà, qui, elle, est sur son promontoire.
Alors, la croix, je la reconnais, hein, c'est la chapelle du rat.
C'est la chapelle du rat, oui.
Bravo, Michel. Avec un arbre aussi qui est dans le bon sens. Mais on a encore deux musiciens, ouais, qui sont, pour le coup, eux, complètement à l'horizontale, comme s'ils étaient assis sur le bord latéral de l'image. Et la chapelle, la fameuse, qui, elle, est complètement renversée. Elle est dans un angle, elle semble surgir du ciel. Donc voilà, on sent que vous vous embêtez pas trop avec la perspective.
Oui, mais vous savez, quand vous êtes dans un petit village, vous regardez, normalement, l'image est déformée aussi, parce que rien n'est droit. Quand vous regardez d'en bas vers les hauts, dans une rue étroite, ben, c'est pas droit. Donc je l'ai accentué peut-être un petit peu. Oui. Mais je fais pas que des paysages, je fais une exposition, comme je disais tout à l'heure, sur le musicien tzigane, je fais une exposition sur le voyage de Franz Kafka. Évidemment, c'est des voyages qu'il a jamais effectués, parce qu'il a rarement quitté Prague, mais je le plaçais à Sarajevo, à Istanbul, à Moscou, partout, comme ça, je le promène un petit peu de temps en temps.
Et alors, sur l'utilisation de la gravure, parce que vous pourriez je sais pas, faire de la peinture ou du dessin, la gravure, il y a quelque chose de, quand même d'assez technique, assez long. Vous voulez faire vous dites que vous faites 10 passes de couleur, c'est 10 passes de couleur, c'est reprendre chaque feuille et refaire une couleur en la plaçant bien, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que dans le côté laborieux de cette technique qui vous. Ça vous apporte quelque chose dans le rapport que vous avez à la représentation ?
C'est-à-dire. Même si j'essaie de faire un dessin comme ça, j'y arriverai pas. Je sais pas dessiner. Je suis beaucoup plus habile avec les ciseaux, avec ça. Donc ça me permet de passer beaucoup de temps derrière mon établi, d'écouter de la musique, d'écouter des émissions. Je travaille comme ça. Donc ouais. J'essaie de faire quelques peintures aussi, mais il me faut peut-être plus de temps. Je passe au moins 15 jours avec une gravure, des fois plus. Je ne sais jamais combien de couleurs il y aura. Je dessine évidemment sur la matrice le contour, mais au fur et à mesure, quand j'imprime, je vois quelle couleur mettre. Par exemple, j'avais l'idée que ce sera dans le rose vert, finalement, ça finit d'être rose, bleu ou violet. Donc, c'est au fur et à mesure, quand je vois, je ne peux pas faire des essais. Comme au fur et à mesure, je modifie la, la matrice, je ne peux pas voir le résultat avant la dernière impression.
Vous ne faites jamais un essai en couleur avant la gravure, en fait. Vous avancez avec, avec le geste de graver, quoi.
Non, je ne fais jamais des essais. Donc, il m'arrive aussi de jeter quelques gravures quand elles sont finies ou avant qu'elles soient finies. Mais en général, j'ai une idée. Même si j'ai modifié les couleurs, je suis assez satisfait des fois.
Alors, il y avait une gravure, pour le coup, est plutôt... Alors, en noir et blanc, il y a quand même quelques couleurs sur lesquelles j'aurais voulu m'arrêter un petit peu. Moi, ça m'a fait penser évidemment tout de suite à la tempête. On voit des arbres, des arbres cassés dans un enchevêtrement, c'est gris. On sent que le ciel, en tout cas, il s'est passé des choses. Le ciel n'est pas aussi joyeux que d'habitude.
Je la regarde, c'est dans un ravin en Slovaquie, dans le Tatras, sur le bout des Carpates. Et d'ailleurs, c'est un très bon souvenir de là, parce qu'on a passé à travers ces... normalement, il y avait un chemin des randonnées, mais c'était impraticable parce qu'il y avait beaucoup d'arbres qui ont tombé. On a quand même franchi, et derrière, on a trouvé des cèpes qu'on ne trouverait pas normalement s'il y avait le chemin praticable, parce que personne n'y est passé depuis 15 jours peut-être. Donc voilà, on a fait notre récolte et on est rentré. Oui.
Donc ce n'est pas du tout une représentation de la tempête de 2000, comme j'avais imaginé.
Non, c'est une tempête. C'est une gravure, elle a 10 ans, je crois.
En tout cas, c'était la seule gravure où il y avait une forme de violence ou de chaos, mais il y avait, en la mettant un peu en regard des autres gravures que j'ai pu voir de vous, il y a quand même quelque chose d'assez joyeux et d'harmonieux, en fait, dans la manière dont vous représentez...
Oui, mais vous ne voyez pas tout ici. Je fais une gravure qui s'appelle « La maladie, la mort, solitude, angoisse, etc. » Mais on ne le trouve pas sur le site en général.
En tout cas, peut-être qu'on peut parler un petit peu quand même de celle qui se trouve dans l'exposition pour laquelle vous êtes aujourd'hui en Limousin, donc ce qui va être donc une exposition qui va commencer à la bibliothèque multimédia du Grand Guéret, qui a commencé d'ailleurs, puisqu'elle a commencé le 10 avril. Et donc exposition consacrée, on l'a dit au début, à Marcel Delpastre et donc à vos gravures autour des textes de Marcel Delpastre. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans l'univers aussi de Marcel Delpastre. Il y a l'imaginaire et le réel est vraiment magnifié. Alors, on a des vaches qui volent, on a des couleurs dans tous les sens, des formes très oniriques.
Oui, Marcel Delpastre. Donc, je fais quelques expositions à Limoges. Jean Doméo, qui a remarqué un peu mon travail, m'a donné quelques livres de Marcel Delpastre. Quand j'ai lu le texte, je suis tombé amoureux, donc j'ai commencé à travailler sur ce texte. Voilà, je les ai exposés déjà à Limoges, mais Guéret m'a invité de nouveau pour le centenaire de naissance de Marcel Delpastre. Donc l'expo a commencé hier, pas le 10 avril, mais le 14, c'était hier, je crois, oui. Ça durera jusqu'au 30 mai, donc vous avez la possibilité de visiter cette exposition. Je pense que lundi, c'est fermé, mais sinon, c'est ouvert tous les jours.
Ouais. Est-ce qu'il y a une gravure en particulier dont on pourrait parler, sur laquelle vous auriez peut-être des choses à dire, pour donner un petit peu envie d'y aller?
J'ai une idée. Je vais vous lire un texte en tchèque. Il y a peut-être quelques tchèques qui m'écouteront. Attendez, je vais...
Oui, alors faut préciser que les textes donc, qui sont dans le livre de Marcel Delpastre ont été traduits aussi en tchèque. Donc on peut les lire en tchèque et en français.
Voilà. Žel ani hodinu, ani jeden den si nevěnoval hledání moudrosti a zatím roční období nechala dozrát stromům a léta unavila tělo. Nenapadlo tě, že to mohla být cesta k Bohu. Nevěřil si tomu. Ani tomu, že moudrost napomáhá cestě životem. C'est une plaisanterie, juste de le lire en tchèque, mais voilà.
Il y a peut-être presque quelque chose d'occitan, hein, des fois. On peut s'imaginer, avec beaucoup d'imagination. Ouais. Non, je vois Michel qui dodeline de la tête.
Avec un peu d'imagination. Voilà. Non, le texte, tous les textes que j'ai choisis, j'adore ce texte-là. Voici qui commence la vieillesse. Je ne me sens pas vieux, j'ai que 79 ans. Mais ce texte sur la mort, sur la vieillesse, sont magnifiques. Ouais.
Ben voilà, donc on peut dire que c'était cette exposition. Donc on a déjà donné les dates, on va les redonner. Donc ça a déjà commencé depuis hier et jusqu'au 30 mai prochain à la bibliothèque multimédia du Grand Guéret. Et une deuxième exposition en Limousin, en parallèle, cette fois à Limoges, c'est ça ?
À Limoges, rue Porte-Panet, ça commencera le 24 avril. C'est des gravures qui n'ont rien à voir avec Marcel Delpastre. Il y aura quelques gravures du Limousin, mais pas seulement un petit peu mes dernières gravures, parce que j'ai exposé à Limoges il y a peut-être 4 ou 5 ans. Donc c'est toute ma nouvelle collection qui va être exposée.
Voilà, et donc à la Galerie du Pont des Arts à partir du 24 avril. Et puis, j'imagine qu'il y aura encore d'autres expositions, d'autres occasions de voir vos œuvres. Je crois que vous avez déposé votre fonds de gravure à la bibliothèque de Limoges. Donc, ils ont de quoi faire plein d'expositions dans les années à venir.
Ils en font ce qu'ils veulent. Mais j'imagine qu'ils ont le fonds de certains artistes pour s'en servir pour quelque chose. Donc, peut-être ils vont le montrer une fois.
Est-ce qu'on peut aller à la bibliothèque et demander à voir le fond? Vous pensez que c'est possible, ça?
Oh, je suis sûr, oui.
Voilà, donc n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas vous rendre à une des deux expositions, allez à la bibliothèque de Limoges et demandez à ce qu'ils vous sortent les gravures de Pavel, parce que c'est vraiment magnifique. Et je pense, alors moi je ne les ai pas vues en grandeur nature, mais j'imagine que ça doit être assez impressionnant. En taille, ça fait à peu près quelle taille une gravure
La plupart de mes gravures sont imprimées sur une feuille 40-50. Donc le bois a 30 sur 40. Mais il y a des gravures qui sont beaucoup plus grandes, mais il y en a peu. Ouais. Maintenant, à Couzex, le 17 avril, maintenant, il y a une exposition de 80 artistes. J'aurai deux gravures qui font 70 sur 50. Voilà. Mais en général, je travaille. Les grandes gravures de cette taille-là, j'ai pas la presse assez grande. Donc, je les imprime par terre avec un rouleau. Grâce à mes 80 kilos, j'arrive à imprimer les gravures de plus grandes aussi. Donc, mais voilà, je ne fais pas beaucoup comme ça. Voilà.
Voilà, et puis en attendant, si vous voulez quand même avoir une idée de ce que ça peut donner, il y a acheter IPNS et vous aurez le droit à avoir quand même deux beaux tirages de Pavel, un bel arbre, un hêtre, et de l'autre côté, alors je vais tourner la page pour ne pas dire de bêtises, c'est un paysage de la tourbière de Longeroux, le site des Sans-Pierres, donc c'est les gros rochers qu'il y a au fond de la tourbière.
Voilà. L'arbre, donc le hêtre au bord du ruisseau, c'était une série de arbres remarquables, c'est-à-dire qui n'étaient pas répertoriés, mais que moi-même je trouvais, je me disais, c'est des arbres remarquables, je fais une gravure. Donc il y avait de charme, bouleau, hêtre, chêne, évidemment, voilà. Partout sur le plateau de Mille Vaches.
Eh ben, Pavel Matzek, merci.
Eh ben, je vous remercie. Dikui.
Et on va passer à la suite de l'émission. Alors voilà, on va continuer à feuilleter ce numéro 94 d'IPNS. Et ça tombe bien, on a quelqu'un autour de la table qui était à l'inauguration de l'exposition dont on vient de parler, c'est Jean-François. Tu as donc assisté à cette inauguration. Et à cette inauguration, il y avait aussi Jean Doméo qui était là, c'est ça. Et tu voulais nous parler, dans le numéro 94, tu as écrit un petit texte autour d'un film qui sort, oui. qui parle de Jean Domeillo.
Oui, un film qui a été fait sur Jean Domeillo, donc qui présente bien les aspects essentiels de son activité artistique, hein, à savoir le chanteur occitan qu'on connaît bien, qui a débordé de beaucoup le Limousin et qui connaît un peu tous les chanteurs occitans dans toute l'Occitanie. Et puis celui qui est également un éditeur, ça fait partie de son travail, ça a été important et ça représente un boulot assez remarquable, tout ce qu'il a édité. En plus, avec des exigences de qualité, il a travaillé en particulier avec un imprimeur charentais qui fait du travail tout à fait remarquable et traditionnel, quoi. Et puis enfin, l'auteur lui-même, s'il n'a pas écrit de grande œuvre de 500 ou 600 pages, il a écrit plein de petites choses au point de vue longueur, mais qui apportent des réflexions intéressantes. Donc ça a été présenté. Mais moi, ce qui m'avait le plus intéressé dans le film, c'est le fait qu'on le voyait dès le départ dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire comment vit-il à la campagne avec cette envie de vivre à la manière traditionnelle comme vivaient ses grands-parents, etc. Et là-dessus, il dit un certain nombre de choses intéressantes concernant l'outil traditionnel, le couteau, la hache, la scie, etc., qui sont des outils créés par l'artisan du coin et qui ont tous une âme, si on veut, parce que aucune hache n'est semblable chez des forgerons différents. Tout ça, c'est assez intéressant. Et il dit en plus, évidemment, que ces outils n'ont pas besoin d'énergie externe. C'est l'énergie de l'homme qui est apportée et qui fait bouger ces outils. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a rappelé nos jeunes années avec Jean, où on lisait entre autres les situationnistes, et les situationnistes qui disaient, ceux qui parlent de révolution, tout le monde parlait de révolution en 68, ceux qui parlent de révolution sans se référer explicitement à la vie quotidienne n'ont qu'un cadavre dans la bouche. Voilà, ça m'a amusé de partir de là.
Voilà, donc ce film, alors je vais te laisser lire le titre parce que je ne suis pas du tout occitaniste et je pense que
le dernier de d'Omeyo, le Meyo, c'est l'endroit où on cultive le millet plutôt, voilà.
Donc, millet, Jean voilà. Loudarié d'Omeyo.
Voilà, le dernier des Meyo, voilà, parce qu'il n'y a plus de, comme il fait une lettre au dernier des paysans, là, lui, il est le dernier des Meyo, voilà.
Et alors, comment on peut voir ce dernier des Meillots?
Alors, il est présenté le 25 mai à 15h à la bibliothèque multimédia de Limoges. Et puis, on peut se le procurer à cette occasion-là. Et puis, à la librairie Occitane à Limoges, bien sûr. C'est le lieu.
Ben, merci Jean-François. Donc, voilà. Réservez votre 25 mai pour, si vous voulez, voir ce film en grand écran. Bon, on va continuer peut-être à feuilleter un peu le numéro d'IPNS. Michel, de quel article on peut parler?
Eh bien, on peut parler de deux longs entretiens que nous avons réalisés avec deux jeunes femmes. Alors, ce n'est pas tout à fait le même sujet l'un et l'autre, mais l'un et l'autre nous parlent de choses qui se passent ou qui se sont passées sur le plateau. Donc, la première, c'est Nassima Hakimi. Elle est géographe, auteure d'une thèse de doctorat qui s'est intéressée à ce qu'elle a appelé les initiatives disruptives de la montagne limousine. Donc c'est ce mot de disruptif qui nous a un peu intrigués. Elle l'entend en fait par là des initiatives que d'autres ici appellent alternatives, militantes, citoyennes, etc. Elle en cite deux, c'est la Samhain et les rencontres annuelles autour de la mort ou le garage associatif de la Selle. Et en fait, elle a travaillé là-dessus. Elle en a recensé. Alors, elle n'a pas cherché à toutes les recenser, mais elle en a travaillé quand même sur plus de 70 initiatives comme ça. Et en fait, tout son travail est de montrer comment ces initiatives qui peuvent paraître une par une de manière un peu marginale ou anecdotique ou modeste, par le cumul qu'elles font quand on les réunit ensemble, colore un peu l'identité du territoire de la montagne Limousine, comment elle contribue à sa vitalité, à son dynamisme et à son attractivité aujourd'hui. Voilà, donc il y a une thèse qui fait je ne sais combien de centaines de pages qu'on peut se procurer en le lui demandant, mais nous on a voulu aussi ménager nos lecteurs et on a essayé de faire sortir l'essentiel de cette thèse dans l'entretien qu'elle nous a accordé. Et puis il y a une deuxième personne à qui on a donné la parole, c'est Aurélie Martin. Aurélie Martin, pendant plusieurs années, a suivi les jeunes volontaires en service civique dans les associations du plateau de Mille Vaches, et elle nous raconte un peu qu'est-ce que ça leur a apporté et puis qu'est-ce que ça a apporté au plateau de Mille Vaches. Et entre autres, elle nous explique que sur les 80 jeunes qu'elle a enquêtés, sur les 87 jeunes qu'elle a enquêtés, eh bien, il y en a 45%, soit 28, du moins pour ceux qui viennent de l'extérieur. Sur les 87 jeunes qui ont fait des services civiques dans les associations du plateau, il y en a 62 qui venaient en dehors de la région. Et sur ces 62-là, il y en a 28 qui, après leur service civique, ont décidé de rester durablement sur le coin, 45%. Et donc, c'est aussi pour montrer qu'il y a des gens qui découvrent le territoire parce qu'ils viennent dans une association en service civique, qu'ils s'y sentent bien, qu'ils y rencontrent des gens. Il y en a même quelques-uns qui trouvent leur amoureux ou leur amoureuse, mais et qui, du coup, continuent à habiter ici, à s'investir dans des associations. Donc, comme quoi, il y a mille manières d'arriver sur le plateau et de le découvrir, et que cela en est un.
Alors, après, on peut dire peut-être c'est la porte du service civique, mais c'est surtout la porte des associations, parce qu'ils ne font pas ces services civiques n'importe où, ils les font dans les associations qui maillent le territoire. Donc, peut-être en termes de développement local, de faire venir des gens, voilà, ça, c'est aussi, c'est peut-être pas dit explicitement dans l'article, mais moi, ça, tout ça m'a fait tilt. Je me dis, oui, c'est peut-être quelque chose à mettre en avant aussi, vu les attaques qu'on subit et de ce qui se dit sur les associations.
Voilà, alors c'est beaucoup les associations, pas que les associations, parce qu'il y a des communes qui ont pu accueillir aussi des jeunes en service civique.
Sur le plateau,
ouais,
je ne sais pas si c'est vraiment le cas.
À Feltin, en l'occurrence, d'accord, je crois. Il me semble, mais c'est des associations aussi. Bon, enfin bref, oui, mais c'est évident que les associations sont des portes pour rencontrer les initiatives sur le territoire. Et du reste, c'est pas sans écho finalement avec le travail de la géographe que je citais auparavant, qui a travaillé sur ces initiatives disruptives, dont beaucoup sont des associations.
D'ailleurs, il faut dire que l'article a une tonalité aussi un peu sombre, puisque c'est un article qui fait le bilan de quelque chose qui s'est arrêté, en l'occurrence, son activité à elle. C'est-à-dire qu'il y a toujours des services civiques dans les structures, mais elle, en tout cas, les fonds qui soutenaient le type d'activité qu'elle pouvait proposer se sont arrêtés. Et globalement, on peut dire aussi que le service civique a plus trop le vent en poupe en ce moment au niveau national. Les fonds baissent, les postes baissent. Et on est plutôt. De ce que j'ai compris, ils mettent beaucoup plus de sous maintenant dans le nouveau service militaire non obligatoire, etc., ou le SNU.
Alors, au niveau national, je ne sais pas exactement où ça en est, mais effectivement, au niveau local, en tout cas, il y avait des financements de la ce qu'on appelait autrefois jeunesse et sport, et qui permettaient justement de financer le poste d'Aurélie Martin qui accompagnait ces jeunes en service civique, parce que son travail, ça permettait qu'ils se rencontrent entre eux et qu'ils rencontrent aussi le territoire dans un certain nombre d'activités. Ils n'étaient pas seulement parachutés comme ça dans leur association, et c'est peut-être ça, cette mayonnaise là qui fait que justement un certain nombre d'entre eux restent après, parce que il y a tout ce travail d'accompagnement qui est fait. Et effectivement, la situation financière des associations étant ce qu'elle est, il y a des associations qui arrêtent de prendre des jeunes en service civique, et on voit que c'est pas seulement l'activité de l'association qui est pénalisée, mais par ricochet la vitalité des actions qui se mènent sur le territoire.
Oui, enfin, c'était aussi les postes qui ont été supprimées. C'est-à-dire que les offres, on ne pouvait plus, les associations, à un moment, ça s'est un peu débloqué assez récemment, mais pendant un moment, les associations n'ont plus le droit de proposer des services civiques. Voilà. C'était pour mettre quand même un peu de noirceur dans ce beau portrait du monde du service civique.
Oui, tu as raison.
On va peut-être pas parler de tout ce qu'il y a dans ce numéro. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez vous abonner. Il y a encore plein de choses à en lire, les rubriques habituelles. Et puis sur le prochain numéro, peut-être qu'on parlera un peu d'autres sujets. On verra. Il sort donc au mois.
Le prochain numéro, ce sera le 95 et il sortira au mois de juin.
Au mois de juin. Donc on essaiera d'être là cette fois-ci vraiment au mois de juin, de pas trop être décalé par rapport à la sortie. On va en rester là pour ce numéro.
Et merci. Puis,
merci à vous, merci à toutes, merci à tous, merci Pavel, merci Yann, merci Michel, et puis on se retrouve au mois de juin. Journal d'information et de débat du plateau de Mille Vaches sur Radio Vassivière. La brigeon, la faute, les sarfs, les le bain, les chers, les roues.